AQA Assessment and Qualifications Alliance General Certificate of Education June 2013 Advanced Examination in French Unit 3
Passage 1 Le futur énergétique de l'Europe
Quelle énergie pour l'Europe au XXIe siècle? Le charbon pourrait alimenter l'économie mondiale encore 130 ans. Il produit 28% de l'électricité européenne. Malheureusement, c'est l'énergie la plus polluante. Les réserves de pétrole et de gaz seront épuisées dans la deuxième partie du siècle. Le pétrole assure 98% du transport routier. Le gaz, 21% de l'électricité du vieux continent. Mais l'Europe est très dépendante au plan de l'énergie. Nos importations d'énergie représentent la moitié de notre consommation actuelle. Et d'après les estimations, en 2030, on devrait être proche de 70%. Pour certains, seule l'énergie nucléaire pourrait réduire la dépendance de l'Europe tout en diminuant ses émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, 152 réacteurs produisent 30% de l'électricité de l'Europe. En cas de rupture de l'énergie fossile, il en faudrait 500.
Passage 2. 4 vols. Titre A.
Samedi soir, à Marseille, 6 individus vêtus de noir et portant de fausses barbes ont cambriolé une bijouterie. Lorsque les malfaiteurs, serbes et croates, sont sortis de la bijouterie avec leur butin, ils ont été interpellés par la police. Placés en garde à vue, ils ont déclaré qu'ils avaient voulu cacher leur identité pour pénétrer dans la bijouterie.
Titre B.
Vers 20h30, un jeune homme de 18 ans se trouvait avec sa copine dans un souterrain menant à un quai du RER lorsqu'il a été agressé par une dizaine d'individus. Il a été battu violemment et les malfaiteurs lui ont volé son portefeuille et son portable. Le jeune homme a été transporté dans le coma à l'hôpital où il reste entre la vie et la mort. Un policier a indiqué que les enregistrements de la vidéoprotection de la gare vont être exploités.
Titre C.
Mardi après-midi, à Lille, un étudiant âgé de 18 ans a reçu un coup de couteau dans la cuisse par 3 adolescentes. Ces dernières lui ont arraché son téléphone portable. Quelques heures après, une adolescente âgée de 15 ans a été interpellée. Et le lendemain, une de ses complices, âgée de 18 ans, a été arrêtée. Les deux adolescentes avaient déjà été jugées coupables le 25 mars dans une affaire de vol avec violence.
Titre D.
Dans la nuit de dimanche à lundi, aux environs de 2h30, des individus ont enchaîné le portail de la gendarmerie pour empêcher les véhicules de sortir. Ils ont ensuite cambriolé l'hypermarché Carrefour situé à proximité. En 6 minutes, les cambrioleurs ont eu le temps de briser les vitres, de découper le rideau de fer et de piller les rayons des téléphones portables et des ordinateurs. Ils ont ensuite pris la fuite.
Passage 3. Discrimination à l'embauche. Nassira vit à Londres depuis 3 ans. En France, elle avait envoyé plus de 200 CV sans résultat. En Angleterre, en un mois, elle a trouvé un emploi à la City dans une banque d'investissement. Sur le CV français de Nassira, ce qu'on voit en premier, c'est sa photo, son nom, son prénom. Mais, sur son CV anglais, ce qui est valorisé avant tout est son expérience professionnelle. Son nom n'apparaît que dans la marge, sur la droite. Nassira explique.
Il n'y a pas de photo sur le CV en Angleterre, car ce serait discriminatoire. Ce qu'on veut savoir, c'est si la personne a la bonne expérience et si on peut la recruter tout de suite.
Ici, les grandes entreprises sont soucieuses de respecter l'égalité des chances pour tous. Et ce n'est pas pour être politiquement correct. Il faut dire qu'en cas de discrimination avérée, cela peut coûter très cher à l'entreprise. Du coup, pour éviter tout procès, les entreprises ont recours à une mesure qui peut paraître choquante en France, les statistiques ethniques. L'idée même de les introduire en France a provoqué une réaction très hostile, mais dans la banque londonienne, où toutes les ethnies sont représentées ou presque, l'affichage des salariés selon leurs origines ne choque personne. Vu de Londres, la France paraît très en retard dans la lutte contre la discrimination. Et Nassira n'imagine pas que les choses puissent évoluer rapidement.
Je ne me vois pas rentrer, si c'est pour vivre ce que j'ai vécu auparavant. Je préfère rester ici et continuer à construire ma vie en Angleterre.
Passage 4. La vie d'une SDF.
Pour Martine, comme pour les autres SDF à Paris, dormir au chaud est une préoccupation quotidienne. Parfois, faute de lit disponible, Martine passe sa nuit dans un café à surfer sur Internet. Mais pas ce soir.
Je propose d'aller à la mairie du 4e arrondissement de Paris. Comme il gèle en ce moment et que les températures sont négatives depuis plus de 2 jours, c'est censé être ouvert dans le cadre du plan de grand froid. Donc, je frappe à la porte, je vois si on m'ouvre. Ils ne sont pas obligés de m'ouvrir parce que je n'ai pas téléphoné au préalable. Il y a 25 places, 20 places pour hommes et 5 places pour femmes. Et on nous sert un repas chaud.
Aujourd'hui, Martine a de la chance. Il reste encore des places.
Alors voici les lits de camp pour les femmes. On va nous donner un duvet qui est très chaud et ceux qui ont trop froid, ils peuvent demander une couverture en plus. Et là, il y a des radiateurs pour s'il fait vraiment froid. Donc en général, ça va. Mais comme on est 25 personnes dans la même pièce, il y en a toujours un qui ronfle. Il y en a toujours un qui se lève la nuit. Donc, on dort comme on peut. Mais on est à l'abri du froid.
End of recording.